Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et les mets en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci vous. Alors, donc nous avons commencé la dernière fois le traité sur la vertu de religion, hein, qui est un traité facile, mais c'est vraiment un des plus beaux traités, hein, de la Somme théologique. Je vous ai dit que Mgr Lefebvre aimait beaucoup ce traité, c'était son traité favori. Avant que j'oublie, donc la semaine prochaine j'ai une retraite ici, donc il n'y aura pas de cours, hein, c'est pour les, ceux qui m'écoutent sur internet, donc pas de cours ni jeudi ni mardi. Je répète aussi que je peux de nouveau prendre des messes, s'il y en a qui ont des messes à me donner, ils peuvent me les donner. Alors, sur le polycopier, on en est à la page 100, en bas de la page, donc nous avions déjà vu la question 81, donc je rappelle que le traité de la religion va couvrir depuis la question 81 jusqu'à pratiquement la fin du la seconde de la seconde, donc jusqu'à la question 122. Alors, on avait déjà vu, je répète rapidement ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la question 81. Donc, saint Thomas va expliquer donc, que la vertu de religion est une partie en fait de la vertu de justice. Rappelez-vous, rendre à chacun ce qui lui est dû. Et la personne, première personne à qui nous devons quelque chose, c'est Dieu. Donc, rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est la vertu de religion. Donc, il vient une triple étymologie qui explique saint Thomas, qui nous donne bien le sens à donner à ce terme de religion, vertu de religion. Soit, première étymologie, ça vient du mot relire. Donc, relire les divins enseignements à la lumière de l'Esprit Saint, dit saint Thomas. Deuxième sens, relier, c'est-à-dire rétablir la liaison entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ, liaison qui a été coupée par le péché. Et enfin, réélire, c'est-à-dire rechoisir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre prince. Alors, on a vu également la première article de la question 82 sur la dévotion. Donc, la dévotion, dit saint Thomas, n'est autre que la volonté de se livrer promptement au culte de Dieu. À partir du moment où on reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, notre chef, notre guide, eh bien, il faut lui rendre un culte. C'est évident. Et c'est très important à comprendre aujourd'hui parce que, je ne sais plus quel est le philosophe qui avait dit, l'homme ne peut pas vivre sans idole. Comprendre, c'est vrai dans un sens. L'homme ne peut pas vivre sans un Dieu. Ou il a un vrai Dieu, ou il a un faux Dieu. Il faut qu'il vive avec quelque chose. Parce qu'il se rend bien compte, même si c'est un païen fini, il se rend bien compte qu'il faut bien qu'il vienne de quelque part. Il faut bien que toutes ces choses qu'il constate dans l'organisme, dans l'univers, aient quand même une cause. Et donc, il faut quelque chose. Alors, ça sera ils adoreront le soleil, ou la lune, ou les étoiles, ou la démocratie, comme vous voulez, mais il faut qu'ils adorent quelque chose. Alors, on a vu déjà le premier article. Donc, la dévotion est un acte spécial de la volonté. Alors, voyons maintenant l'article 2. Donc, on est toujours dans la question numéro 82, article 2. La dévotion est un acte de la vertu de religion. Donc, cette réponse a déjà plus ou moins été donnée. La religion, donc, qui nous porte à tous les actes du culte divin, doit les vouloir avec dévouement, dire avec dévotion. Donc, la dévotion est un acte de la vertu de religion. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement que ça vienne de l'intelligence, mais que ça vienne aussi du cœur. Quelques-uns, donc il y a une objection, à laquelle répond le père Le Breton, là, dans le livre que je suis. L'objection est la suivante, quelques-uns prétendent que la dévotion est plutôt un acte de la charité plutôt qu'un acte de la vertu de religion. Elle procède, il est vrai, d'une manière médiate de la charité, qui est le principe de la religion elle-même, mais elle appartient immédiatement à la religion par laquelle l'homme s'offre à Dieu pour accomplir les œuvres du culte. C'est-à-dire que la vertu de religion, c'est plutôt s'occuper des moyens pour atteindre la fin. La fin, c'est Dieu. Ça, c'est la charité. Les moyens pour atteindre cette fin, c'est la vertu de religion. Ouais. Donc, la dévotion envers Dieu et la dévotion envers les saints qui vont suivre la dévotion envers Dieu ne s'arrête pas aux saints eux-mêmes. Donc, on verra après les différents types de dévotion. On peut avoir une dévotion à l'égard de la Sainte Vierge Marie, une dévotion à l'égard des saints, mais c'est évidemment pas la même dévotion que la dévotion que nous avons à l'égard de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle la dévotion à l'égard de Dieu, on utilise un mot spécial, le culte de l'atrie. La dévotion à l'égard de la Sainte Vierge ou la dévotion à l'égard des saints, c'est la dévotion du culte de Dulie. C'est de là que vient le terme un peu compliqué de fin latretique de la messe. Latretique de la fin de la messe, c'est la fin d'adoration. Donc ça vient du culte de l'atrie. Bon, on peut distinguer aussi, certains théologiens distinguent, on verra ça plus tard, un culte spécial pour la Sainte Vierge qu'on appelle le culte d'hyperdulie. Donc l'atrie, Dieu, hyperdulie la Sainte Vierge, dulie les autres saints. Alors, une question extrêmement, un article extrêmement important, saint Thomas d'Aquin va essayer de voir quelle est la cause de la dévotion. La dévotion, il faut quelque sorte une espèce d'énergie spirituelle pour que cette dévotion puisse nous élever vers le bon Dieu. Si on nourrit pas la dévotion, la dévotion, on a comme un oiseau qui ne sait pas voler, qui va raser les pâquerettes, il ne va pas aller loin. D'accord ? Et c'est très intéressant de voir que saint Thomas donc, se pose cette question, la méditation est-elle la cause de la dévotion ? Il va répondre affirmativement. La cause extrinsèque et principale de la dévotion, dit-il, n'est autre que Dieu lui-même. Mais la cause intrinsèque de la dévotion, elle n'est pas ailleurs que dans la méditation et la contemplation. Vous voyez ? Ceci explique pourquoi cette vertu de raison, cette vie de raison est absolument fondamentale. Une âme qui ne fait pas aux raisons, je dirais, c'est un peu une fleur qu'on n'arrose pas. Une fleur qu'on n'arrose pas en plein été, elle va défaillir, elle va finir par se déshumidifier et par mourir. Donc, l'oraison est quelque chose de capital. Une âme sans oraison, c'est une âme qui est morte ou qui est en train de mourir. C'est pour cela que les exercices Saint-Ignace sont très importants, parce que les exercices Saint-Ignace apprennent aux retraitants à faire oraison. La plupart des gens ne font pas oraison. Ça vient d'où ? Ça vient en général du fait que leur prière est exclusivement une prière vocale. Il n'y a pas de prière mentale chez la plupart des gens. Donc, ils vont réciter des prières. C'est une bonne chose, je n'ai jamais dit que la prière vocale était mauvaise, mais la prière vocale doit alimenter une prière mentale. La prière mentale, c'est la prière de l'esprit, j'ai déjà expliqué, je crois. Vox, c'est la voix, mens, c'est l'esprit. Donc, la prière vocale alimente la prière mentale. La prière du cœur, la prière de l'âme, si vous voulez, c'est d'abord la dévotion. Voilà ce que dit saint Thomas. La dévotion est principalement produite par la méditation. Donc, la méditation va nous faire comprendre l'impuissance qui est la nôtre et le besoin que nous avons d'assistance divine. C'est tout le travail de la méditation, de l'oraison, on peut dire que ce sont deux synonymes, le travail de l'oraison, c'est de nous faire comprendre deux choses. D'une part, qui est Dieu, donc qui est l'homme en comparaison. Deuxièmement, notre impuissance à atteindre Dieu par nous-mêmes, et donc, conséquence, la nécessité que nous avons d'une assistance divine. Donc, plusieurs étages. Premier étage, contempler Dieu lui-même. En contemplant Dieu lui-même, on va voir que Dieu est infiniment au-dessus de nous. En contemplant Dieu lui-même, on va contempler le Créateur, donc on va comprendre qu'il a des droits sur nous, et que donc, indirectement, on a donc des devoirs. Et donc, si on comprend que Dieu a des droits sur nous, on va, en même temps, comprendre à quel point on a besoin de lui. Et donc, à quel point nous avons besoin de son assistance pour pouvoir y arriver. Alors, il y a une note ici qui est très importante, c'est tout à fait l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce que disent les saints, pas simplement saint Thomas, mais beaucoup de saints disent la même chose. Les choses sensibles étant nécessaires pour l'amour et la connaissance des choses divines, rien n'introduit mieux la dévotion dans les âmes que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ va nous parler peut-être beaucoup plus que sa divinité. Pourquoi ? Parce que l'humanité, on sait ce que c'est. Nous sommes des hommes nous-mêmes. Notre Seigneur Jésus-Christ a la même humanité que nous. Il a pris notre humanité. Évidemment, il est homme en tout, sauf dans le péché, évidemment. Mais c'est quand même la même humanité. Et donc, comme cette humanité nous parle, donc l'humanité va alimenter en quelque sorte notre volonté et surtout notre cœur, puisqu'on prie aussi beaucoup avec le cœur. Eh bien, rien n'introduit donc mieux la dévotion dans les âmes, c'est-à-dire l'oraison dans les âmes, que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, la contemplation de la Passion. Et on voit très bien comment les saints insistent sur la contemplation de la Passion. Et puis, une fois qu'on arrive à comprendre l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, en contemplant la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on comprend à quel point notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, la preuve c'est qu'il est mort pour nous sur la croix, à ce moment-là on peut s'envoler, si vous voulez, passer au niveau au-dessus et commencer à contempler la divinité de notre Seigneur. J'ai expliqué, je crois, la dernière fois, l'exemple classique, c'est la transfiguration. Transfiguration, donc il voit l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que va faire notre Seigneur au sommet du calvaire? Il va enlever un petit coin du voile. Enlever un petit coin du voile, c'est l'origine du mot révélation. La révélation, c'est ça, c'est enlever le voile. Donc notre Seigneur ne va pas enlever le voile complètement, parce que nul ne peut voir Dieu ici-bas sans mourir. On pourrait pas, on n'est pas suffisamment grand, en quelque sorte, humainement parlant, même dans notre âme, pour pouvoir voir Dieu dans sa divinité. Donc notre Seigneur va simplement enlever une toute petite partie de sa divinité. Alors il y a un autre article qui me semble très important aussi, donc c'est l'article 4 de cette question 82. Saint Thomas va expliquer que si j'ai cette dévotion, donc cette méditation qui est l'énergie en quelque sorte de l'énergie de la dévotion, donc la méditation entraîne la dévotion, l'oraison entraîne la dévotion, eh bien la conséquence de cette dévotion, c'est la joie. Sans bizarre, mais c'est exactement ça. Donc il doit y avoir une certaine joie à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Une joie à prier notre Seigneur Jésus-Christ. Si on prie, on se met à jour devant le bon Dieu en disant, bon Dieu, c'est vraiment... je suis là parce qu'il faut. Hein. Point final, j'ai vraiment pas envie d'être là. Bon, ça peut arriver. Hein. C'est ce qu'on appelle la méditation de la bûche. La méditation de la bûche, c'est ça. C'est le jour où on n'a pas envie de prier. Le jour ça va tout seul et le jour ça va pas du tout. Eh bien, il faut quand même prier. Même en disant, bon Dieu, écoutez, mon Dieu, voilà, je suis là, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le moral, et je pense à n'importe quoi sauf à ce à quoi je dois penser pendant la dévotion, ça fait rien, je suis là. Mais il doit y avoir une joie surnaturelle qui vient de la dévotion. C'est pour ça que quand on reprend l'évangile, c'est l'épître de dimanche prochain, l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, les fruits du Saint-Esprit. Il y a d'abord la charité c'est l'amour de bon Dieu, immédiatement après la charité, qu'est-ce qu'il y a? La joie et la paix. Charité, joie, paix, bonté, patience, bénignité, etc. Les 12 fruits du Saint-Esprit. Au début, il y a la joie. Et donc, Saint Ignace va faire des développements magnifiques là-dessus en disant que la dévotion découle primordialement de la considération de la bonté divine. Et cette bonté divine va faire naître directement la joie. Hein? Pourquoi? Parce que c'est surtout dans la contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on comprend l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et quand on comprend l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, on comprend qu'indirectement, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel. Donc il nous attend là-haut. Et ça doit nous remplir de joie et de paix. Donc la dévotion, dit Saint Thomas, doit aussi... provient secondairement de la considération de nos propres défauts. Donc deux choses. D'abord, la dévotion découle principalement de la considération de la bonté divine. Cela fait naître de la joie, et puis en même temps une certaine tristesse, parce que l'âme ne peut pas jouir ici-bas encore pleinement de Dieu. Donc quand je contemple la bonté divine, j'ai d'abord de la joie, et la tristesse qui suit la joie, mais la bonne tristesse. D'accord ? Au contraire, si... par ma méditation, par mon oraison, par la dévotion, je considère mes propres défauts, c'est-à-dire mes propres limites. Cela va entraîner deux choses. D'abord la tristesse, dans le sens que je vais voir mes limites, et je vais me dire, mais je ne suis pas capable de monter au ciel par mes propres moyens. Et indirectement, la joie, par l'espoir qu'elle nous donne de recevoir les secours divins. Donc c'est, si vous voulez, il faut équilibrer les deux choses. À la fois comprendre, je suis comme le pauvre gars qui est tombé aux mains des brigands, qui est à moitié mort au long de la route, d'une part. Donc je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Ça c'est la tristesse, mais en même temps la joie de voir le bon Samaritain arriver. Il va me prendre sur sa monture, il va me prendre sur l'humanité du Christ. L'humanité du Christ va me porter, va me conduire au confessionnal, va me conduire à l'église. Vous voyez? Donc toute la vie du chrétien, c'est une espèce d'alternance entre cette joie et cette tristesse. Alors, il y a une mauvaise tristesse et une bonne tristesse. Attention, la tristesse dont ici saint Paul en parle, la tristesse dont saint Thomas parle ou saint Paul parle, c'est pas là, le découragement, c'est tout à fait différent. Le découragement, c'est pas bon. La tristesse, une certaine tristesse, c'est bonne. Tristesse de se rendre compte, c'est une aspiration d'aller vers le ciel, on ne peut pas l'assouvir immédiatement, on ne peut pas avoir directement le ciel maintenant. Alors on aspire après ce ciel, et cela nous donne à la fois la joie de savoir que le bon Dieu nous attend au ciel, et en même temps une tristesse de ne pas pouvoir y aller plus vite. Nous sommes ainsi fondés à dire, dit saint Ignace en conclusion de cette question numéro 82, nous sommes ainsi fondés à dire que la dévotion produit primordialement et par elle-même la joie, secondairement et par accident, la tristesse selon Dieu. Donc les misères de la nature humaine et les péchés qui ont causé de telles souffrances, voilà ce qui porte la tristesse en nous. La bonté divine qui nous a délivrés de si grands maux, voilà ce que produit la joie. Oui, c'est pour ça que les méditations sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est une source de joie extraordinaire. Oui. Il faut arriver à équilibrer les choses. C'est pas très facile. Et on voit dans certaines hérésies le manque d'équilibre qui va introduire, au lieu de la tristesse, qui va introduire le découragement. Ça, c'est surtout le jansénisme. L'hérésie janséniste, saint François de Sales l'appelait l'hérésie de glace. Donc le jansénisme, le protestantisme, c'est pareil. C'est une espèce de... Ça dessèche complètement l'âme. Pourquoi? Parce que le jansénisme ou le protestantisme, c'est un petit peu la même chose sur certaines choses. Donc le jansénisme, le protestantisme, ce sont des fausses religions qui vont dessécher complètement l'âme parce que l'âme n'aura plus la possibilité de recevoir les sacrements. Saint Luther, il n'est pas saint du tout. Luther va couper l'âme des sacrements, c'est-à-dire qu'il va détruire la grâce. Il va détruire la grâce parce qu'il détruit la messe. Vous voyez? J'écoutais là, maintenant je fais mes courses cet après-midi, j'écoutais une très belle conférence de Mgr Lefebvre, splendide, où il expliquait qu'il y a une relation transcendantale, dit-il, entre la notion de sacrifice, la notion de sacrifice et la notion de sacerdoce. Sacrifice c'est la messe, sacerdoce c'est la prêtrise. Donc sans sacerdoce, pas de sacrifice, sans sacrifice, pas de sacerdoce. Voyez? Et donc, si vous voulez, c'est la conclusion un petit peu, cette joie et cette tristesse, une espèce de mouvement vers le haut, si vous voulez, en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt, qui quitte au ciel pour nous, et en même temps un mouvement vers le bas en contemplant ici-bas la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et ceci va nous donner justement cette paix intérieure extraordinaire. Et donc il faut avoir les deux choses. Quand on a un peu trop tendance à l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on a au contraire tendance à se décourager, si vous faire contempler notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, mais on équilibre les choses. D'accord? Donc la misère de la nature humaine et les péchés qui ont causé telle souffrance, voilà ce qui porte la tristesse. La bonté divine qui nous a délivré de si grands maux, voilà ce qui a produit la joie. Donc, vous avez quelques notes ici, aussi en page 100 sur le polycopier. Donc en bas de la page 100, deux paragraphes avant la fin de la page, en bas de la page 100. Je recite ici d'autres textes de saint Thomas d'Aquin. La dévotion n'est rien d'autre qu'une volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu. Il est évident que les œuvres concernant le culte ou le service divin sont le domaine propre de la religion. C'est donc à elle qu'on attribuera l'acte de tenir sa volonté prompte à les exécuter, c'est cela être dévot. Il est donc clair que la dévotion est un acte de la vertu de religion. Alors, dans cet article, fin de la question 82, donc l'article 3 et puis encore l'article 4, Donc saint Thomas explique bien, je reprends un petit peu avec les textes qui sont sur le polycopier cette fois-ci, qui sont légèrement différents. Les textes que je vous ai déjà cités, ça les complète, ce sont aussi des textes de saint Thomas. Hein. Donc la méditation est cause de la dévotion. Hein. Quant à la cause intérieure qui tient à nous, c'est nécessairement la méditation ou contemplation. La dévotion est un acte de la volonté qui fait qu'on se livre avec promptitude au service de Dieu. Oui, donc il y a trois choses qui vont travailler dans la contemplation, dans la dévotion, dans la méditation, dans l'oraison, l'intelligence, la volonté et le cœur. Le cœur, c'est les passions. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une image que certains saints prennent. C'est comme, si vous voulez, toutes les imaginez des aiguilles de métal. Vous mettez un aimant, elles vont toutes se mettre parallèles dans la direction du flux magnétique. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Lorsque une âme contemple Dieu par son intelligence, la volonté va avoir cette extraordinaire joie de contempler notre Seigneur Jésus-Christ, et ça va entraîner au niveau des passions une volonté de suivre la volonté, une volonté de suivre ce que demande l'intelligence. Donc en bas, vous avez les passions qui commencent à se diriger vers le bon Dieu par l'intermédiaire de la volonté, par l'intermédiaire de l'intelligence. Oui. Donc il faut les trois choses. C'est pour ça qu'on verra après dans d'autres textes de saint Thomas d'Aquin que la dévotion justement ne doit pas être quelque chose de sec. Hein? Pas quelque chose de sec. C'est pour ça que, on verra ça plus tard, le don de piété qui est un des dons du Saint-Esprit doit travailler avec le don de science. Mais le don de science doit travailler avec le don de piété. Hein? Parce que la science sans la piété c'est une catastrophe. Science sans la piété c'est une espèce de catéchisme sec. Au contraire, la piété sans la science, c'est aussi dangereux. Dans le sens que la piété sans la science, ça va entraîner une espèce de sentimentalisme. Vous voyez, on voit très bien dans toutes ces explications que donne saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas de sentimentalisme du tout. Vous voyez, sentimentalisme, ça n'a rien à voir avec la foi. Sentimentalisme, c'est la personne qui communie, puis elle sent son petit cœur qui bat très fort. Là. Oh, je sens mon cœur qui bat, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis, c'est pas la foi, ça. C'est pas la dévotion. C'est purement naturel. Voyez. Donc, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Alors, donc, on est à la page 101. Donc, deux considérations, dit saint Thomas, vont venir de ces considérations. Première considération, les considérations qui viennent de la bonté divine et de ses bienfaits. Donc c'est le psaume 73, il m'est bon d'adhérer à Dieu et de placer dans le Seigneur mon espoir. Cette considération éveille l'amour de charité, cause prochaine de la dévotion. Mais deuxième considération, c'est que la méditation se tire de nous-mêmes et de la vue des déficiences qui nous force à nous appuyer sur le bon Dieu. J'ai levé les yeux vers les sommets d'où me viendra le secours. Cette vue exclut la présomption qui, nous faisant compter sur nos propres forces, nous empêche de nous soumettre à Dieu. Vous voyez, donc, la grande vertu qui nous protège de l'orgueil, c'est l'humilité. Celui donc qui a la science sans la piété, eh bien, il va avoir une science de plus en plus sèche, et cette science va nous faire tomber dans l'orgueil. Mais l'inverse est aussi très dangereux, je vous ai expliqué, c'est que celui qui n'a que la piété sans la science va tomber dans le sentimentalisme, dans ce qu'on appelle l'angélisme. Et ça entraîne par exemple une espèce d'apparitionnisme, des gens qui cherchent tout le temps des sentiments, ils veulent des sentiments. Vous voyez. Et le bon Dieu, il sait ce qu'il doit nous donner. De temps en temps, il nous donne des choses faciles, un peu de sucre, de temps en temps, il nous donne du sel, de temps en temps, il nous donne du poivre. Alors quand il nous donne du poivre, c'est pas très marrant, on attend le sucre. Et puis, si on n'a que du sucre, on va finir par avoir une espèce de dévotion mièvre. Non, il faut une dévotion force. Et la force qui alimente la dévotion, c'est la méditation sur la croix de notre Seigneur. C'est pour cela qu'à la racine de toute dévotion, il y a dévotion au Saint-Sacrifice de la Messe, qui est le renouvellement dans son grand sacrifice de Calvaire. On peut méditer là-dessus facilement à partir des textes tout à fait du début de la Messe. Ça nous aide à comprendre ça. Vous voyez, qu'est-ce que... La messe commence comme ça, immédiatement cette messe commence comme ça, donc c'est le psaume du Dicamé, le psaume du début de la messe. Donc qu'est-ce qu'on commence par dire? Introibo d'altare di adeum cunetificat suventute meum. Je monterai à l'autel du Seigneur vers Dieu qui renouvelle la joie de ma jeunesse. mais tout de suite la joie. Mais en même temps, tout le psaume va nous maintenir dans l'humilité. Faites-moi justice, Seigneur, et plaidez mon procès. Délivrez-moi d'un peuple sans pitié, de l'homme perfide et pervers. Car vous êtes mon Dieu, mon rempart. Pourquoi me rejeter? Pourquoi dois-je marcher en deuil, pressé par l'ennemi? Envoyez votre lumière et votre vérité. Elles me guideront, elles me conduiront à votre montagne sainte et à vos tabernacles. Et je parviendrai à l'autel du Seigneur, au Dieu qui renouvelle la joie de ma jeunesse. J'exulterai et vous louerai sur la cithare. Seigneur mon Dieu, pourquoi ta langue guide-tu mon âme et pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Le salut de ma face est en mon Dieu. Oui, on voit bien les deux choses, c'est-à-dire à la fois la crainte, parce qu'il y a tous les ennemis autour de nous, et en même temps l'espoir qui nous donne cette joie extraordinaire, parce que je monterai à l'autel de Dieu, vers Dieu qui renouvelle la joie de ma jeunesse. Je sais que Dieu est plus fort que tous mes ennemis. Il faut méditer. Il y a des prières magnifiques dans la Sainte Messe, justement, qu'il faut méditer pour comprendre la dévotion. Monseigneur Lefebvre nous conseillait ça, on le faisait souvent dans les retraits des préparations aux ordres, le diaconat, sacerdoce. C'est méditer directement sur le texte de la Messe. Les textes du commun de la Messe, et les méditer. Il y a des choses extraordinaires. Monseigneur nous parlait souvent, par exemple, de la beauté de la... C'est une des plus belles prières de... Les plus belles prières du sacrifice de la messe. Il nous parlait beaucoup de la prière. Attends, je la retrouve. La prière qui se dit au moment où le prêtre bénit l'eau, avant, tout à fait au début. Il y a tout là-dedans. Au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et qui, de manière plus admirable encore, l'avait rétabli dans sa dignité première, accordez-nous par ce mélange symbolique de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné s'unir à notre humanité. C'est incroyable comme phrase. Hein? Avoir part à la divinité de celui qui a daigné s'unir à notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous, l'unité du Saint-Esprit. Et il nous aider à méditer à partir de ça, pour nous préparer au sacerdoce. Et donc on peut très facilement reprendre les belles prières de l'offertoire pour méditer justement sur la grandeur du sacrifice de la messe. Et à la messe, tout est résumé dans la Sainte Messe, parce que la Sainte Messe c'est quoi? C'est à la fois la tristesse du calvaire et en même temps la joie qui découle du calvaire. Donc c'est la longue montée de notre Seigneur Jésus-Christ en portant sa croix au calvaire, ça c'est la tristesse, et le calvaire est l'étape pour la résurrection. Alors là c'est la joie. C'est un petit peu un autre exemple qu'on peut prendre pour expliquer tout ça, c'est l'exemple du père et de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui revient, donc il y a toute la tristesse du père qui voit son fils qui s'en va, qui abandonne les biens paternels et qui va gaspiller sa vie, perdre son âme. Et puis le retour de l'enfant prodigue est toute la joie du père. Donc la dévotion donc, fait couler souvent des larmes de joie assez semblables à celles qui s'échappent des yeux d'une mère retrouvant un fils qu'elle croyait avoir perdu. Oui, dans cette question numéro 82 qui est très courte, il y a des choses magnifiques justement parce que saint Thomas nous explique que la méditation est la cause de la dévotion. Et que donc la méditation cause la dévotion et la dévotion va causer la joie. Donc la méditation va causer la joie. Ensuite, question 83. Je ne dis pas de bêtises. 82. 81, 81, donc on a la question 83. Donc avant d'attaquer cette question 83, je voudrais reprendre certaines notes que j'ai mises sur le polycopier à la page 101, deuxième paragraphe. Voilà, des textes magnifiques de saint Thomas. Donc la faiblesse de l'esprit humain, de même qu'elle a besoin d'être conduite par la main jusqu'à la connaissance divine, veut que nous n'atteignions pas à l'amour sans l'aide de réalités sensibles adapter notre connaissance, et en premier lieu ce sera l'humanité du Christ. Et qu'il est plus facile de comprendre l'amour du bon Dieu en méditant son humanité qu'en méditant sa divinité. Et là, saint Thomas cite la préface de Noël. en sorte que connaissant Dieu sous cette forme visible, nous voyons, nous soyons par lui ravis en l'amour des réalités invisibles. Donc regarder l'humanité de Christ est donc le moyen par excellence d'exciter la dévotion. C'est comme un guide qui nous prendrait par la main et la dévotion donc va s'attacher principalement à ce qui concerne la divinité qu'elle va atteindre par l'humanité, notre Seigneur. Donc l'humanité mène à la divinité. Bon, alors il y a des gens qui arrivent à aller directement à la divinité, notre Seigneur, je ne suis pas contre, hein, mais l'expérience montre qu'il vaut mieux passer par l'humanité, justement. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, se monte sanglant sur la croix, ça c'est l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, et l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Passion prépare la résurrection du jour de Pâques. Donc voilà ce que dit saint Thomas sur la science. Je vous expliquais que pour pouvoir justement avoir cette dévotion, il fallait une alliance entre le don de piété et le don de science. Voilà ce qu'il dit sur la science. La science, comme tout ce qui implique grandeur, est une occasion pour l'homme de se fier à lui-même et l'empêche donc de se livrer totalement à Dieu. C'est donc là parfois un obstacle occasionnel à la dévotion, tandis que des gens simples et des femmes ont une abondante dévotion parce qu'ils répriment tout orgueil. Mais la science ou toute autre perfection que ce soit, si on la soumet parfaitement à Dieu, accroît la dévotion. Donc si la science est régulée par la piété, à ce moment cette science va nous faire augmenter la connaissance de Dieu. La science c'est ça, la science c'est ce qui nous amène à la connaissance du bon Dieu. Bon, mais un accroissement de la connaissance de Dieu, s'il n'y a pas la vertu d'humilité qui nous ramène ici-bas, qui nous rappelle qu'on n'est pas encore au ciel, eh bien, ça va nous faire tomber dans l'orgueil. Et on voit très bien comment des gens qui avaient une haute connaissance, si vous voulez, de Dieu, ont pu tomber dans des hérésies épouvantables. Il ne faut pas oublier que la plupart des grands hérésiarques étaient des prêtres, voire même des évêques. Par exemple, Arius était diacre, Luther était prêtre. Vous voyez ? Et donc, c'est des gens, si vous voulez, qui avaient une certaine facilité. Il paraît que Luther était un grand prédicateur, je viens de croire, mais il manquait l'humilité. Donc, la science sans l'humilité, ça provoque des catastrophes. Et, en général, ça se voit parce qu'il y a des gens comme ça qui sont extrêmement intelligents, mais qui sont incapables de mettre leur science théologique au niveau des plus simples. Alors, ça ne sert pratiquement à rien. C'est quelqu'un qui a un trésor extraordinaire, mais qui est incapable de mettre à la portée du peuple. Vous voyez, mon père parlait souvent, il travaillait à la Farge, il parlait souvent de ces l'école polytechnique qui envoyait des jeunes polytechniciens faire des exercices, faire des études dans les usines. Et papa me disait que quand un polytechnicien arrivait dans l'usine de la Farge, c'était une catastrophe dans toute l'usine parce qu'il avait flanqué la bazar partout parce qu'il était complètement déconnecté du réel. Donc on le mettait avec un technicien, mais sa tête était tellement, son cerveau était tellement grand qu'il était incapable de connecter au réel. Pratiquement, on ne pouvait rien en faire. Donc il fallait, en fait, pour pouvoir utiliser ces polytechniciens, il fallait littéralement commencer, même en leur donnant un salaire de polytechnicien, à la faire commencer par balayer un atelier pour qu'ils se rendent compte de la réalité des choses. Et papa m'a fait part d'une réaction d'un... Il avait confié ce polytechnicien à un chef d'atelier qui a essayé de lui expliquer au niveau des machines. Le polytechnicien ne comprenait rien parce que le langage qu'utilisait le chef d'atelier était un langage tout simple. Le polytechnicien était tellement habitué à un langage compliqué qu'il ne comprenait rien. Et à la fin, le chef d'atelier excédé a pris un balai, l'a mis dans la main du polytechnicien en disant « ça c'est un balai ». Il a demandé de balayer l'atelier. Il a dit à mon père « c'est lui ou moi, il y en a deux qui quittent l'atelier ». Père a fait sortir le polytechnicien. Mais vous voyez, c'est un peu la même chose avec les bons Dieu. Il ne faut pas que la science théologique dessèche. C'est le gros danger. Et on voit, c'est très important pour garder l'humilité, on voit comment certains grands hérésiarques ont été des grands docteurs. Hein. C'est le cas par exemple de Tertullien, docteur de l'Église, pas n'importe qui, c'est le cas d'Origène. Hein. Origène, Tertullien, des plus grands docteurs de l'Église. Qui sont, on a des doutes sur leur salut, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas canonisés. Il y a deux grands docteurs deux grands-pères de l'Église, pas les plus grands-pères de l'Église, Origène et Tertullien, qui sont cités constamment par saint Thomas d'Aquin, surtout Origène, qui ont une influence considérable dans leur temps, au 3e, 4e siècle, mais qui sont peut-être tombés un peu dans l'orgueil, ce qui fait que Tertullien, il a fini chez les donatistes, une espèce de secte qui était un petit peu comme le jansénisme, une espèce de secte sèche, si vous voulez, qui déracinait, qui empêchait la dévotion au Sacré-Cœur. Voyez. Et Origène, il est tombé dans certaines idées un peu gnostiques, quoi, surtout en prêchant une espèce de millénarisme, en prêchant aussi la préexistence des âmes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas canonisés. Donc il faut l'humilité. Voyez. Il faut l'humilité. Et donc, plus on étudie le catéchisme ou la théologie, plus on se rend compte de la grandeur de Dieu. Et en même temps, plus il faut se rendre compte que plus je connais Dieu, plus je me rends compte à quel point je le connais mal. Vous voyez, parce qu'on s'approche de Dieu, en s'approchant de Dieu, on se rend plus compte de la grandeur de Dieu. Alors, donc, dans le polycopie à la page 101, donc c'est le paragraphe 1, 2, 3, 4, voilà ce que dit saint Thomas. Je reprends les textes que j'ai déjà expliqués sous une autre forme, pas sûr que c'est bien compris. La dévotion cause l'allégresse de l'âme, la joie de l'âme. En elle-même, cette considération de nature a causé la tristesse par le rappel de nos misères, mais elle peut être l'occasion d'allégresse dans l'espoir du secours divin. Plus je me rends compte que je ne peux rien par moi-même, plus je suis obligé de compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pouvant rien faire par moi-même, tristesse, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, précisément parce qu'il connaît ma tristesse, va m'aider, joie. Ce qui nous attriste, dit saint Thomas, dans la considération de la passion du Christ, c'est la misère humaine que le Christ est venu enlever. Attendez, j'ai pas de mon ligne, moi. Est-ce que c'est ça? Ce qui nous attriste dans la considération de la passion du Christ, c'est la misère humaine que le Christ est venu enlever par laquelle il a fallu qu'il souffre. Mais il y a de quoi nous remplir d'allégresse si nous songeons à la bonté de Dieu envers nous qui nous a procuré une telle libération. Et donc quand on médite la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc tout le chemin de croix, qui est donc quelque chose de très pénible, il faut toujours s'arrêter et finir avec la considération du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ ouvert sur la croix. Et donc pour bien montrer justement que la partie pénible, si vous voulez, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ va conduire doit alimenter notre dévotion. Une fois que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, on a l'impression qu'il a tout donné. Qu'est-ce qu'il fait? Le centurion va ouvrir le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien nous montrer qu'il y a encore quelque chose à donner. Et le Sacré-Cœur, c'est le symbole de l'amour. C'est donc le symbole de la conséquence pour nous de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors passons à la question numéro 83 maintenant. La prière. Donc après, enfin, je rappelle les différentes questions. Question 81 de la religion, question 82 de la dévotion, question 83 de la prière. Vous connaissez la définition du catéchisme, élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu pour lui demander, l'adorer, lui demander ce dont nous avons besoin. Alors, saint Thomas va se poser d'abord la question de savoir si la prière est un acte de la puissance appétitive. Une réponse négative en disant que la prière est un acte de la raison. Et c'est même de là que la raison tire son nom. Oration. Oratio, en latin, c'est la oris, c'est la bouche, qui marque que la raison s'exprime par la bouche. Donc apprendre l'oraison ou la prière dans le sens de la supplication à la demande, elle est évidemment un acte de la raison. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va nous demander de prier sans couper la volonté de l'intelligence. Et c'est comme les deux ailes d'un oiseau, il faut les deux. Il faut l'intelligence pour comprendre, mais il faut aussi la volonté. La volonté c'est le cœur, l'intelligence c'est la lumière. Donc la prière peut donc se définir l'élévation de notre esprit vers Dieu. C'est un peu la définition du catéchisme. C'est une formule de saint Jean Damascène. La prière a le désir de la volonté pour cause, mais elle l'interprète Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'élévation de notre esprit vers le bon Dieu. Alors saint Thomas, après, va disserter justement sur la grandeur de la prière dans toute la question numéro 83. Il va finir, évidemment, par la plus belle des prières, celle que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée, à savoir notre Père. Alors, est-il convenable de prier? Question 83, article 2. Donc, il cite l'évangile de Saint-Luc, il faut prier et ne se lasser jamais, prier sans cesse. Alors, il va d'abord analyser les différentes erreurs. Les différentes erreurs des philosophes concernant la prière et ensuite répondre. Trois erreurs, donc, dit-il sur ce sujet, ont été suivies par les philosophes de l'Antiquité. Les uns supposaient, supposant que les choses humaines ne sont point gouvernées par la Providence, ont considéré la prière et le culte divin comme complètement inutiles. D'autres, s'imaginant que soit par l'immutabilité de la Providence divine, soit par l'influence irrésistible des astres, soit par l'enchaînement nécessaire des causes secondes, tout arrive fatalement en niant encore l'utilité de la prière. Ça, c'est le fatalisme. Fatalisme qu'on trouve dans l'islam, les fatalistes qu'on trouve dans l'hindouisme de façon épouvantable. Donc ça sert à quoi de prier, puisque de toute façon Dieu a tout décidé par avance. Donc, c'est une objection à laquelle il faut apprendre à répondre, parce que c'est une objection qu'on entend souvent. Enfin, troisième groupe, ceux qui professent la foi à la Providence, qui repoussent le système de la fatalité, et qui ont soutenu que les desseins de Dieu étant variables, la prière et le culte peuvent les changer, comme si notre prière allait changer complètement les choses. Donc il faut comprendre que la prière pour nous va changer les choses, mais pas pour Dieu, dans le sens que Dieu, lui, étant Dieu, sait par avance exactement ce qui va être demandé. Alors, voilà ce que m'en répond saint Thomas d'Aquin. Les lois de la divine providence embrassent non seulement les effets, mais encore les causes et l'ordre dans lequel ils doivent paraître. Il faut en conséquence, voilà la phrase clé de saint Thomas, il faut en conséquence que l'homme fasse certaines actions, non pour changer les desseins de Dieu, mais pour amener les effets qui, d'après l'ordre divinement établi, s'y rattachent. Et que Dieu, dans sa miséricorde, attend nos prières pour nous donner certaines grâces. Donc, la volonté du bon Dieu, elle existe avant nous, si vous voulez. Certains saints ont dit, simplement, je dis souvent en prédication, que la seule personne qui est capable de changer la volonté du bon Dieu, c'est la Sainte Vierge. Et on le voit très bien, par exemple, aux noces de Cana. Donc, notre Seigneur Jésus qui est là avec les apôtres, la Sainte Vierge est à côté de lui, ils n'ont plus de vin. Bon, la Sainte Vierge l'a vu, elle se contente de dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Et notre Seigneur va répondre de façon un peu sèche, apparemment, en disant, mais qu'y a-t-il entre vous et moi? Ce n'est pas encore mon heure. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien de cette façon-là, notre Seigneur n'avait pas en soi, dans sa volonté humaine, il n'avait pas la volonté de faire un miracle. Pour plaire à sa mère, il veut le faire. Il va changer l'eau en vin. Mais en fait, dans sa volonté divine, Dieu savait très bien qu'il allait changer l'eau en vin. D'accord ? Donc humainement parlant, la Sainte Vierge Marie peut changer la volonté divine, mais divinement parlant, la volonté divine est inchangeable. Et donc, une fois, c'est des délicatesses de langage, mais qui sont importantes, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à comprendre, c'est qu'il y a deux intelligences et deux volontés en notre Seigneur. Une intelligence humaine et une intelligence divine, une volonté humaine et une volonté divine. Et c'est comme ça qu'on peut entendre parfois des choses qui peuvent presque scandaliser quand notre Seigneur Jésus-Christ dit du haut de la croix, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais Arius, évidemment, a sauté sur l'occasion en disant, mais alors, il n'est pas Dieu. Puisqu'il dit, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc, il n'est pas Dieu. La réponse est que notre Seigneur ici parle comme homme, pas comme Dieu. Vous voyez ? Donc je vous répète cette phrase qui est à mon avis la phrase clé de toute la question 83. Il faut que l'homme fasse certaines actions, non pour changer les desseins de Dieu, mais pour amener les effets qui d'après l'ordre divinement établi s'y rattachent. Ce qu'on appelle des prières conditionnelles, des grâces conditionnelles plus exactement. Dieu a prévu certaines grâces pour vous ou pour moi, et il va les libérer en quelque sorte, dans la mesure où on lui demande proprement et correctement. C'est comme une maman qui a décidé de donner un cadeau à son enfant, mais elle attend que l'enfant demande poliment, s'il vous plaît, puis-je avoir telle chose. Un enfant qui ne veut pas demander poliment, qui oublie le s'il te plaît ou s'il vous plaît, eh bien, la mère donne rien, elle attend. Donc, le don de la mère, du cadeau de la mère à son enfant, va dépendre de l'introduction de l'enfant. Il faut que l'enfant vienne demander avec suffisamment d'humilité, « Maman, puis-je avoir cela ?» Et la mère, à ce moment-là, donne à l'enfant. Mais si l'enfant refuse d'utiliser ce petit mot magique, « s'il vous plaît », eh bien, la mère donne rien. Pareil avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il sait exactement quelles sont les grâces dont nous avons besoin, mais il attend de notre part que nous préparions le chemin à ces grâces. C'est pour ça que la première fin de la prière, c'est la fin d'adoration. Et il faut, pour tout simplement comprendre l'importance de la prière, on verra ça plus tard, mais il suffit de reprendre les quatre fins de la messe. La première, c'est la fin d'adoration. Hein. La fin, ce qu'on appelle l'âtretique, la fin d'adoration, le culte de l'âtrie. Après, la fin d'action de grâce, la fin eucharistique. La fin de demande, la fin impétratoire. Et la fin propitiatoire pour demander pardon pour nos péchés. Oui. Mais il y a un ordre. On commence d'abord par la fin d'adoration. Et tout de suite après, la fin eucharistique. C'est-à-dire, la fin eucharistique, c'est quoi? C'est l'action de grâce. Savoir remercier. Et beaucoup de... C'est comme le même exemple que je viens de vous donner. Un enfant qui ne remercie pas pour avoir reçu un don, qu'est-ce que fait la maman? Récupère le don. Mais c'est pareil avec le bon Dieu. On ne sait pas remercier. Combien de fois on voit ça chez tous ces jeunes qui n'ont pas vraiment une foi très forte et qui se contentent de prier quand ils ont un problème. Voilà. Alors, l'examen de maths qui arrive, ils n'ont pas travaillé leurs mathématiques, alors il y a un miracle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donnez-moi l'examen. Et puis si vous me donnez l'examen, je ferai ça, ça, ça et ça. Et puis, ils demandent, tout ce qu'ils veulent, c'est demander. Ils demandent. Je veux ça, ça, ça et ça. Ils ne s'arrêtent pas avant de demander. On commence par des bonjours. Imaginez un enfant qui rentre auprès d'un adulte, dans la chambre d'un adulte, dans la pièce où un adulte est là, et qui commence, je veux ça. Attendez, d'abord on dit bonjour, d'abord on frappe avant d'entrer, on dit bonjour, et puis on remercie. Vous voyez, et pour ça que dire bonjour, bon Dieu, c'est quoi? C'est l'acte d'adoration, c'est la fin latrotique. Et immédiatement après, la fin eucharistique. Remercier le bon Dieu, l'action de grâce. Et les gens modernes sont incapables de remercier, parce que pour eux, tout leur est dû. On voit très bien le monde moderne, en France c'est très visible, cette espèce de considération que tout nous est dû, donc on n'a jamais remercié. D'accord? Alors, il y a un texte ici de... Saint Thomas va citer Saint Grégoire le Grand. Alors, auparavant, il explique ceci. Saint Thomas dit, « Nous prions Dieu non pour changer ses desseins, puisque les desseins de Dieu sont inamovibles, non pour changer ses desseins, mais pour obtenir ce qui est l'effet de nos demandes. » Ce qu'on appelle des prières ou des grâces conditionnelles. Dieu donne ses grâces à condition qu'on les lui demande proprement. Ensuite, Saint Thomas va citer Saint Grégoire. Saint Grégoire le Grand, le pape Saint Grégoire, « Par nos supplications, nous méritions de recevoir ce que le Tout-Puissant a résolu dans l'éternité d'accorder à nos prières. » Il faut supplier. Et supplier, quand on supplie, on est à genoux. On ne supplie pas dans l'orgueil. C'est la prière du pharisien et du publicain. Le pharisien qui supplie debout, plein d'orgueil devant Dieu, il n'obtient rien du tout. Par contre, au contraire, le publicain, lui, va obtenir. Dieu connaît nos nécessités, mais il veut que nous sentions le besoin que nous avons de son secours. Donc la prière va nous aider à considérer que nous avons besoin du secours de Dieu. Tout en nous accordant par sa libéralité beaucoup de choses que nous n'avons pas demandées, Dieu se réserve de n'accorder les autres qu'à nos prières. Il veut par là nous porter à recourir à lui, exciter notre confiance en sa providence et nous apprendre qu'il est l'auteur de tous nos biens. Vous voyez ? Donc, toujours le même mouvement, c'est un mouvement vers Dieu pour comprendre sa grandeur et mouvement vers nous-mêmes pour comprendre notre incapacité d'obtenir quoi que ce soit par nous-mêmes. Et donc il faut passer par le bon Dieu. On peut utiliser aussi, je vous l'ai déjà dit souvent, pour prier, souvent l'action de grâce après la communion, en utilisant le petit mot qu'on donne aux enfants pour leur apprendre à faire une action de grâce, ardor, A-R-D-O-R, adoration, remerciement, demande, offrande de soi-même et résolution. Et on retrouve le même ordre. D'abord l'adoration, A, R, remerciement. On commence par adorer puis remercier. Apprendre. Mais si on commence par demander avant d'adorer et remercier, on ne fait rien du tout. Hein. Alors, j'en suis où là? 83. deux. Donc vous avez un résumé de cela par saint Thomas dans sur le polycopier page 101. Voilà ce qui est dit ici sur les textes de saint Thomas. La prière donc est une élévation de l'âme vers Dieu. La providence divine ne se borne pas à établir que tel ou tel effet sera produit. Elle détermine aussi en vertu de quelle cause et dans quel ordre il le sera. Nous ne prions pas pour changer l'ordre établi par Dieu, mais pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen des prières des saints. Lorsque notre âme vise les biens temporels pour se reposer, elle s'y abaisse, mais quand elle les vise en vue d'obtenir la béatitude, loin de se trouver abaissée par eux, elle les relève. D'accord ? Donc, si vous voulez, la prière va nous faire comprendre la grandeur des choses de Dieu et la petitesse des choses de ce monde. Toute l'importance de la vie de prière. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas évident, mais il faut arriver à aider nos fidèles à ne pas avoir qu'une prière vocale, mais aussi une prière mentale. L'importance de la raison. Combien de fois moi m'est arrivé, par exemple, je vois que quand je donne par exemple comme pénitence à quelqu'un, allez passer 10 minutes devant le Saint-Sacrement. Le gars me regarde et me dit. Vous avez un bouquin ? Vous avez besoin d'un livre pour dire adorer le bon Dieu ? Ben oui. Je lui dis, mais. J'explique comme ça, mais supposez que je vous dise, allez dire à votre femme que vous l'aimez. Vous avez un bouquin ? Si vous avez besoin d'un bouquin pour dire à votre femme que vous l'aimez, quelque chose qui ne va pas. Si on a besoin d'un bouquin pour dire au bon Dieu qu'on aime, quelque chose qui ne va pas quand même. Vous voyez ? Et c'est là où la vie d'oraison est tellement importante. Mais d'arriver à faire comprendre aux gens que quand on aime le bon Dieu, eh bien, les choses se font beaucoup plus simplement. Rappelez-vous, dans la vie de Saint-Curé d'Ars qui avait remarqué qu'il y avait un paysan qui tous les matins allait à son champ, et puis en allant à son champ, il posait sa bêche contre le mur de l'église, et puis il venait adorer notre Seigneur à l'église pendant quelques minutes, il repartait, il prenait sa bêche, il allait au champ. Et un jour, le Saint-Curé se dit, mais qu'est-ce que vous dites au bon Dieu ? Il a répondu cette phrase magnifique, le paysan a dit, je l'avise et il m'avise. Je l'avise et il m'avise. J'avise le bon Dieu et le bon Dieu m'avise. Ça veut dire, je lui parle de mes problèmes et il me parle des siens. En gros, c'est ça, quoi. Mais le Saint-Curé avait été tout heureux de voir cette belle phrase. C'est tout à fait ça, quoi. Donc, c'est savoir... passer un temps devant le Saint-Sacrement, oui, pour ne pas considérer la dévotion envers le Saint-Sacrement de l'autel comme quelque chose de purement matériel, en quelque sorte, vous voyez. C'est un peu le drame des gens, si vous voulez, qui systématiquement, quand ils sont à la chapelle, veulent absolument un livre pour dire le plus de prières possible. Vous voyez, on voit aussi ça, par exemple, pour les actions de grâce. Bon, ça peut aider. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser de bouquin, c'est pas ce que je dis. Parfois, dans certains cas, ça aide. Mais il faut savoir aussi vraiment s'asseoir devant le bon Dieu, s'agenouiller devant le bon Dieu, simplement pour avoir cette espèce de cœur à cœur avec notre Seigneur. D'accord ? Article 3, donc de la question 80. Alors, attendez, où est-ce que j'en suis là ? C'est ça. Article 3 de la question 83. La prière est-elle un acte de la vertu de religion ? Voilà ce que dit saint Thomas, la religion qui rend à Dieu, rendant à Dieu le respect et l'honneur que nous lui devons, embrasse tout ce qui est propre à l'honorer. Or il est évident que l'homme honore Dieu par la prière, donc la prière est donc un acte de la vertu de religion. Donc le premier acte de la vertu de religion, c'est la prière d'adoration. Donc la prière l'emporte même sur tous les autres actes de la vertu de religion. Alors, saint Thomas va tout de suite... Poser une autre question et savoir si nous devons ne prier que Dieu seul. Donc c'est la question 83, article 4. Voilà ce qu'il dit. On peut adresser des prières à quelqu'un pour qu'il les exauce lui-même ou pour qu'il les fasse exaucer par un autre. Nous n'adressons les nôtres qu'à Dieu de la première manière, mais nous pouvons prier les anges et les saints de l'autre manière. Vous voyez, je ne me rappelle plus quel est le. Je me souviens que c'est Saint-Curé d'Ars qui expliquait ça comme ça, qui expliquait la notion de prière, ce qu'était la prière, d'intercession de notre Sainte Vierge Marie. Donc il raconte l'histoire d'un une histoire du Moyen-Âge qu'on racontait aux enfants du Moyen-Âge. C'est l'anniversaire du roi. Alors tous les grands du royaume viennent apporter un cadeau magnifique pour le roi. Des cadeaux plus somptueux les uns que les autres. Alors tous les gens du royaume viennent apporter leur cadeau d'anniversaire au roi. Et puis il y a un pauvre paysan qui est tout en vêtements de travail, quoi, en vêtements sales. Et puis il se cache au fond de la grande salle où tous les grands du royaume sont venus, tous les habitants sont venus offrir leur cadeau d'anniversaire au roi. Lui a pratiquement rien trouvé, rien donné. Il a trouvé ce chose qu'il a trouvé. Il avait une rave qu'il avait récoltée dans son champ qui était magnifique. Alors évidemment, par rapport au cadeau somptueux que donnaient les chevaliers, il était tout troublé. Alors il tenait sa rave dans sa main et puis il n'osait pas s'approcher. Et à ce moment-là, la reine l'a repéré. La reine qui est à côté du roi repère le pauvre paysan. Alors elle quitte le roi, elle s'approche, elle va au fond de la pièce. Il comprend la gêne du paysan. Elle prend la rave et la met sur un magnifique plateau d'argent. Elle va l'offrir elle-même au roi de la part du paysan. Voyez. Et à ce moment-là, le roi, étant donné que ça a été offert par la reine, couvre de gloire le paysan. Bien, c'est tout le rôle de la Sainte Vierge Marie. C'est des exemples comme ça qui existent très souvent dans le Saint-Curé d'Ars pour faire expliquer aux enfants et aux adultes la dévotion à la Sainte Vierge. D'accord. Donc, il faut comprendre que la prière d'intercession est très importante. Et donc, passer par la Sainte Vierge Marie, passer par la dévotion au Saint, ça c'est quelque chose que le monde moderne a beaucoup de mal à comprendre. Les protestants ont mal fou à comprendre ça. Parce que donner la dévotion à la Sainte Vierge à un protestant, il faut se lever de bonheur. Hein. C'est pas évident. Parce qu'ils considèrent, pourquoi voulez-vous que je passe par Sainte Vierge? Parce que je peux aller directement vers le bon Dieu. Alors je veux les clés de la voiture, le bon Dieu me dit non, alors je passe par sa mère pour avoir les clés de la voiture. Bien, c'est ce qu'ils disent. Mais non, c'est que justement, la très sainte Vierge Marie nous a été donnée par le bon Dieu pour nous aider à l'atteindre. Et j'explique aux protestants, quand on en a sous la main, aux retraites, j'explique, mais regardez le texte de l'évangile. Et ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant de mourir, il donne son église, représentée par Saint Jean, sa mère. Mère, voici votre fils. Fils, voici votre mère. D'accord ? Article 5, bon, je passe sur certains articles qui sont un petit peu moins importants. Dans l'article 5, devons-nous demander à Dieu des choses déterminées, hein? Et notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint Thomas d'Aquin va répondre positivement, mais il faut faire attention à ne pas demander n'importe quoi au bon Dieu, à demander des choses sous la condition que ça lui plaise. S'il vous plaît, ça, c'est la phrase s'il vous plaît, c'est très beau. L'expression a perdu son sens dans le français moderne quand on dit s'il vous plaît, c'est-à-dire si cela vous plaît, je demande telle chose. Sous-entendu, si ça ne vous plaît pas, je retire ma demande. D'accord. Alors, Saint Thomas se pose même la question de savoir si on a le droit, s'il faut prier pour des biens temporels. Alors, il répond par l'affirmative. Hein. Par exemple, quand vous dites « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est pas simplement le pain de la Sainte Eucharistie, on verra, mais c'est aussi le pain matériel. Hein. Donc il est permis, dit saint Thomas, de souhaiter les biens de la terre comme des moyens, non pas comme des fins, comme des moyens qui, en soutenant notre corps et en contribuant à nos actes de vertu, nous aideront à parvenir au bonheur du ciel. Par exemple, on a le droit de prier pour demander la santé. Sous-entendu, la santé pour pouvoir servir le bon Dieu. Mais toujours en faisant précéder cette prière du mot « s'il vous plaît », c'est-à-dire « si cela vous plaît, j'aimerais retrouver la santé ». Sous-entendu, si il est mieux pour moi que je sois malade pour aller au ciel, eh bien, que je reste malade. Je donne toujours cet exemple magnifique dans la vie de... J'explique ça aux retraites souvent. C'est un exemple assez connu, mais c'est un des plus beaux exemples que j'ai trouvé. C'est sur le tombeau Saint Thomas de Canterbury en Angleterre. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de miracles qui étaient faits par l'apôtre de l'Angleterre. Et il y avait tellement de miracles qui étaient faits que des tas de malades venaient demander des guérisons. Il y a beaucoup de miracles sur son tombeau. Et un jour, il y a un aveugle qui habitait le sud de l'Angleterre qui se fait conduire par un guide jusqu'au tombeau de Saint Thomas de Canterbury parce qu'il voulait demander la guérison, trouver la vue. Et donc, il traverse une partie de l'Angleterre pour aller se mettre à genoux au pied sur le tombeau de saint Thomas de Canterbury. Et puis, il demande le miracle de la grâce, de la guérison, de retrouver la vision. Et le bon Dieu lui accorde. Il retrouve la vue. Alors, il reste 3 jours à l'action de grâce, tout content. Et puis, il revient, cette fois-ci tout seul, plus un guide. Et en revenant, il a dû passer par Londres. Et à Londres, il a commencé à voir toutes les horreurs des grandes villes. Il a commencé à sentir des tentations qu'il n'avait jamais eues auparavant parce qu'il ne voyait rien. Alors, il a eu des tentations très très fortes, toutes les tentations contre la pureté. Il a fait demi-tour droite, il a vite revenu vers le tombeau et il a dit à Saint Thomas de Canterbury, enfin dans sa prière, il a dit au bon Dieu, mon Dieu, je vous remercie beaucoup d'avoir fait un miracle, j'ai retrouvé la vue, c'est pas mal, mais si maintenant c'est plus difficile pour moi de sauver mon âme qu'avant, vous ne pouvez pas faire un deuxième miracle pour que je la perde de nouveau? Il a perdu immédiatement. Et l'histoire dit qu'il est revenu chez lui avec plus de joie que la première fois. J'utilise cet exemple pour expliquer ce que c'est que la sainte indifférence. Au début des exercices, Athéliens parle de la sainte indifférence. Être indifférent aux choses de ce monde. Une vie courte ou une vie longue, la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Ce que je veux, c'est sauver mon âme. Donc, saint Thomas conclut qu'on a le droit de demander des biens temporels. Donc on a le droit de prier, dit-il, ici de saint Augustin. Celui-là n'est pas à blâmer qui veut les biens temporels, non pour les biens eux-mêmes, mais pour les forces de son corps ou pour les convenances de sa position sociale. Il faut en demander la conservation quand on les a et l'acquisition quand on ne les a pas. En recherchant les biens temporels pour s'y complaire, l'esprit s'abaisse vers la terre, et en les recherchant pour le ciel, elle s'élève. Le Sauveur n'a défendu que la sollicitude excessive et désordonnée. Alors, rapidement, l'article 7, après je m'arrêterai là, parce que après on commencera l'explication du Notre Père. Article 7 de la question 83, devons-nous prier pour les autres? Eh bien, saint Thomas explique qu'à cause de la vertu de charité, il nous est demandé de prier aussi pour les autres. La charité nous oblige à souhaiter le bien des autres, mais nous oblige aussi à prier pour eux. La prière donc la plus agréable à Dieu n'est pas celle que la nécessité lui adresse, c'est celle que lui présente la charité. Savoir prier pour les autres. Il y a encore des grâces conditionnées par la prière pour les autres. C'est-à-dire, Dieu accordera à telle personne telle grâce si telle autre personne prie pour demander ses grâces. C'est avoir en rond le rôle des vieilles grand-mères catholiques dans les familles. Hein. Les vieilles grand-mères catholiques, on a l'impression qu'elles ne savaient pas grand-chose, mais elles étaient au coin de la cheminée en train de réciter leur chapelet ou leur rosaire à longueur de journée. Mais elles ont obtenu des grâces incroyables pour les enfants. Hein. Beaucoup d'enfants ont évité de faire des grosses bêtises parce qu'il y avait la grand-mère, la vieille grand-mère qui priait. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Bon, on va arrêter là parce que ça fait déjà dépasser l'heure. Donc, la prochaine fois, alors attention, pas la semaine prochaine, pas de cours, mais dans 15 jours, si Dieu veut, donc, nous expliquerons d'abord la prière pour les ennemis, c'est un point important, c'est qu'on doit prier pour nos ennemis. C'était ce chevalier qui avait une mauvaise prière qui disait Seigneur, occupez-vous de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Oui, bon, c'est pas exactement ce que va dire saint Thomas, on verra ça. Et ensuite, il y a le magnifique article 9, qui est un des plus beaux articles de la Somme, qui va expliquer les demandes de Notre Père. Donc, saint Thomas conclut, si vous voulez, en étudiant la plus belle des prières. Et là, j'irai reprendre le sermon, un des sermons magnifiques de saint Thomas. Saint Thomas était dans sa cellule, donc il faisait de la haute théologie à longueur de journée. Et de temps en temps, il déposait sa plume. Enfin, il écrivait pas lui-même, il avait des secrétaires. Il y avait 4 secrétaires, il les épuisait tellement, à écrire, il y avait 4 secrétaires. Mais il déposait sa plume, et puis il partait dans les rues de Naples pour prêcher à Naples, aux pauvres. Et les gens venaient écouter, il a comme ça donné des sermons pour expliquer le Notre Père. Je vais utiliser ces sermons, les commentaires de saint Thomas d'Aquin sur Notre Père. Il a fait le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo et les commandements. C'est splendide. Et quand on lit ça, ça me donne un peu une idée de la décadence intellectuelle dans laquelle on est tombé, parce qu'il parlait à des gens tout simples, avec un langage que nous, actuellement, on a même du mal à comprendre, tellement on est devenu bête par rapport aux gens du Moyen-Âge. Donc on verra tout ça, si Dieu veut, dans 15 jours. Donc on en est à l'article 8, je vais noter ça ici. Aujourd'hui on est combien? On est le 23, c'est ça? On en est là, 23 et 8. Voilà, donc on va terminer par par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.